France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Je voulais vivre. C'est un titre de roman qui sonne comme un cri, comme un appel. Adélaïde de Clermont-Tonnerre s'empare de l'histoire de Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Une histoire racontée par des hommes, les Trois Mousquetaires, qui en réalité sont quatre, et par Alexandre Dumas. Et ben, la voilà racontée par une femme. Une histoire qui commence par un passage patrimonial de la littérature française.
Milady de Winter, nous sommes seulement des témoins. Nous n'avons pas à vous juger. Mais vos crimes répondent pour vous. Ils vous ont condamné. D'Artagnan, quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme ?
La mort.
Milady Winter, quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme ?
La mort. Anne de Breuil, comtesse de l'affaire, Milady de Winter. Vos crimes ont lassé les hommes sur la terre et Dieu dans le ciel. Si vous savez quelques prières, dites-la, car vous allez mourir.
Non, vous n'avez pas le droit. Pour me livrer au bureau, il faut un jugement, il faut un ordre.
Le voici.
C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. Richelieu.
Adaptation radiophonique des Trois Mousquetaires en 1969. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Bonjour Xavier Mauduit.
Et avant tout, félicitations pour ce prix du roman historique au rendez-vous de l'histoire de Blois 2025. Je le dis par honnêteté intellectuelle, mais je fais partie du jury, donc je suis d'autant plus ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Ça fait toujours plaisir.
Je vous remercie doublement, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis particulièrement touchée parce que j'ai des attaches dans la région. Donc pour moi, ces rendez-vous d'abord sont magnifiques et d'être récompensée là-bas, c'est vraiment formidable. Merci infiniment.
Quelles sont vos attaches dans la région ?
On a une maison familiale depuis très longtemps, près de la ville de Loches. Vous savez, cette ville qui a été rendue célèbre par les grosses têtes. Il y avait toujours une madame belle-père de Loches qui posait des questions embarrassantes.
Exactement. Avec ici ce roman « Je voulais vivre ». Adélaïde de Clermont-Tonnerre, nous avons entendu, là, pour ouvrir l'émission, un passage, je le disais, patrimonial de la littérature. C'est le procès de Milady. Vous pouvez nous rappeler ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ?
Mais ça m'a donné le frisson de l'entendre parce que ce sont exactement les mots de Dumas. Cette femme est seule. Elle est capturée par 10 hommes, dont les fameux mousquetaires, qui décident de la juger en dehors de toute justice, de la punir pour ses crimes, qui existent, il est vrai. Et ce qui est très troublant, c'est que deux d'entre eux ont été, l'un son mari, l'autre son amant. On ne peut pas dire qu'on soit dans la parfaite objectivité. Et ce qui est très troublant aussi, c'est que depuis maintenant des décennies, des siècles, on accepte ce procès sans se poser la question de sa véritable justice ou injustice.
Vous avez des souvenirs de lecture des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, peut-être à Loches, dans la maison familiale.
Mais c'est exactement là, je me perchais dans un arbre et j'y passais des heures et j'ai lu ce texte et relu ce texte. Je l'ai aussi lu pendant tout un été parce qu'on était partis à l'étranger et je n'avais pas d'autres livres. Donc la trilogie, j'allais de la première à la dernière page, à peine terminée, je revenais à la première jusqu'à la dernière page. Donc je connaissais ce texte par cœur. Mes petites filles, justement, c'est là où on voit les représentations qui peuvent vous façonner. À ce moment-là, moi je suis fascinée et amoureuse d'Athos, qui est ténébreux, torturé, d'une grande noblesse de cœur. Je suis fascinée aussi par la fougue d'un jeune D'Artagnan plein d'élan. Je veux être Constance, la compagne de D'Artagnan, celle qui est la gentille de l'histoire. La femme aimante, sacrifiée, et Milady me paraît une épouvantable criminelle. Donc pas un instant, je trouve que le sort qu'on lui fait subir pose problème. Ça passe comme une lettre à la poste.
Et c'est également mon cas. Hein. Dans la lecture des Trois Mousquetaires, je ne m'étais jamais vraiment posé de questions. La ville de Loches est une ville formidable pour lire
magnifique.
Un tel roman, parce que avec tout ce qu'elle compte de traces du passé, de vieilles pierres, c'est sensationnel.
Et la figure... plus haut donjon d'Europe est à Loches.
C'est à Loches.
Ville de Louis XII. Effectivement, il y a beaucoup de romanesque dans cette ville.
Et la figure d'une femme aussi, Agnès Sorel.
Absolument.
Associée à la ville de Loches. Comment avez-vous pris la décision de vous emparer de l'histoire de Milady, de raconter son existence. C'est comme si elle nous livrait un témoignage sur ce qu'elle a vécu. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous travaillé?
Alors, ça a été vraiment un double mouvement. D'abord, la passion de Dumas, qui reste intacte, et j'espère qu'on sentira dans ce livre à quel point j'aime ce romancier, cet écrivain qui, il faut bien le rappeler quand même, a été très longtemps méprisé. Très longtemps, on a considéré que c'était... il y avait trop de plaisir de lecture pour que ce soit de la bonne littérature. Il y a cette idée un peu quand même prude, je trouve, quelquefois dans notre pays, que quand il y a du plaisir, c'est pas forcément très recommandable. Je pense aussi que Alexandre Dumas a peut-être souffert un peu de... c'était un quart des lettres françaises, ses origines métisses. Il était à la fois aimé de ses contemporains et puis un peu méprisé. Ça a continué par la suite. Et moi, j'ai toujours aimé Dumas, et ça part à la fois donc de cet amour pour cet écrivain et en même temps de ce mouvement d'indignation qui me prend, mais très tardivement. Il m'a fallu littéralement peut-être une trentaine d'années pour un jour, en écoutant une version très simplifiée des Trois Mousquetaires, c'est avec mes enfants, donc c'est vraiment tissé un peu grossièrement, et j'entends une phrase qui m'a marquée au fer rouge, je pourrais le dire comme ça. On dit « Milady, cette perverse qui a 15 ans à peine a détourné un prêtre du droit chemin ». Et je crois qu'on peut pas à l'époque d'aujourd'hui entendre ce type de phrase sans se dire « voyons, elle a 15 ans à peine ». Bon, le consentement, je vois bien que c'est pas le sujet à l'époque, mais le prêtre a forcément le double de son âge. Qui détourne qui? Et comme je connais ce texte par cœur, m'arrive en boomerang tous les éléments que j'aurais dû voir si j'avais été dans un mouvement de sororité envers cette femme à l'époque, si j'avais été capable de comprendre. Et je me dis, il faut que je raconte son histoire. Ce n'est pas parce que c'est un personnage de fiction qu'au fond, elle ne peut pas réclamer justice.
La lecture d'un ouvrage dépend de la société dans laquelle nous le lisons. Et à vous écouter, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, j'entends bien que tout ce qui s'est passé dans les années récentes, hashtag MeToo, etc., a transformé notre manière de voir le monde. Heureusement d'ailleurs, mais oui, c'est vrai que nous avions tous et toutes des œillères. Nous ne voyions pas cette domination. Et là, dans Les Trois Mousquetaires, c'est de manière très claire que nous la saisissons.
C'est-à-dire, quand on re-regarde ce texte aujourd'hui, ça éclate aux yeux. Mais en même temps, regardez jusqu'aux dernières adaptations cinématographiques. Moi, j'ai commencé ce livre il y a un petit peu plus de 5 ans. J'ai suspendu le crayon quand j'ai su qu'il y avait les films qui sortaient, en me disant, bon, évidemment, ils vont voir ce que j'ai vu. Évidemment, à notre époque, on ne peut pas raconter cette histoire comme on l'a racontée depuis des siècles. Alors, ils ont fait un film, très romanesque, très, très luxueux, avec beaucoup d'action, etc. Mais je trouve que même si Eva Green lui donne une gravité, une densité, un petit éclat de son passé, on reste très à la surface de cette femme. C'est pour ça que j'ai décidé de terminer ce livre. Et c'est vrai qu'il y a un double mouvement, à la fois l'époque qui nous change, et peut-être moi aussi, mon parcours de femme. Aux petites filles, je voulais être l'enfant sage, et puis finalement, au fur et à mesure des années, j'apprends un peu plus à suivre, non pas les injonctions parentales, mais les désirs profonds qui m'animent.
Être un peu plus rebelle, nous savons combien la littérature est un élément sur lequel se sont appuyés nos ancêtres. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, nous le faisons pour l'éducation, tout simplement, pour éveiller. Et dans cette littérature-là, vous l'avez souligné, il y a deux figures féminines dans Les Trois Mousquetaires, mais la gentille et la méchante, hein.
Alors, on est vraiment, effectivement, dans cette dichotomie qui traverse depuis des centaines d'années l'image des femmes. La femme pure, idéale, et la femme maudite, fatale. Et c'est pour ça que, tout en me basant toujours sur ce qu'a esquissé Dumas, parce que je ne vais pas contre son texte, en fait, je me glisse dans les silences qu'il a laissés, dans les blancs qu'il a laissés, dans, au fond, ce qu'il n'a pas déployé. Eh bien, Constance, si on n'y regarde de plus près, et peut-être un peu moins potiche qu'on a bien voulu l'imaginer. Et elle a, elle aussi, des petits détails qui font que... Alors, je ne fais que l'esquisser dans le texte, mais on pourrait penser qu'elle est un peu plus complexe que ce qu'on a bien voulu dire.
Ah bah oui, c'est ce que l'on ressent quand on vous lit. Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Nous sentons bien ici qu'en reprenant Les Trois Mousquetaires, donc vous l'avez relu, vous avez saisi tous les instants où nous avions des éléments biographiques sous la plume de Dumas, mais vous, vous avez donné la version de Milady pour en arriver là. Il y a quand même un aspect extrêmement ludique, et en tant que lecteur, je l'ai ressenti aussi. On se dit, ah oui, mais non, mais c'était pour ça, mais je ne le savais pas.
Alors ça me fait tellement plaisir que vous en parliez comme ça, parce que c'est vraiment, j'ai ressenti un plaisir fou. En écrivant ce texte, parce que justement, je joue avec cette matière que j'aime de Dumas, et j'ai voulu transmettre ce plaisir d'écriture et de lecture en essayant de faire les livres que j'aime lire, au fond, un livre qui vous emporte, un livre avec un personnage auquel on s'attache, avec des émotions fortes. Et c'est vraiment, j'ai travaillé, au fond... À déployer. J'avais le sentiment que Milady, elle était à peine posée. À très peu de moments dans le texte original, on rentre dans sa psychologie. Il y a une scène d'affrontement extraordinaire où là, on sent sa capacité intellectuelle lorsqu'elle est emprisonnée en Angleterre et qu'elle va dresser son gardien contre le duc de Buckingham. Elle va lancer son gardien à l'assaut du duc de Buckingham. Mais sinon, Dumas reste vraiment à la surface. Donc je me suis imaginée que je rentrais dans son équipe d'écrivains, puisqu'il a été le tout premier à faire travailler des écrivains. C'est un peu le premier showrunner, pour prendre un mot anglais, de l'histoire de la littérature, l'inventeur du feuilleton, celui qui va vraiment faire travailler en équipe. Donc je me suis dit, mais moi, mon travail dans l'équipe des écrivains de Dumas, c'est de donner le point de vue féminin.
Oui, parce que le point de vue féminin, bien sûr, il manque. Et vous terminez avec une note de l'autrice, votre roman « Je voulais vivre », en insistant sur le fait que l'histoire de Milady est racontée par des hommes. Donc les Trois Mousquetaires, plus d'Artagnan, ça en fait quatre. Alexandre Dumas, bien sûr, Alexandre Dumas, qui n'écrit pas seul. Donc ce ne sont que des hommes.
Que des hommes. Et c'est ce qui m'a frappée et ce qui m'a touchée, au fond, et d'où ce mouvement d'indignation, c'est la solitude de cette femme. La solitude dans la scène, elle est une femme quand même fragile, physiquement infiniment moins forte que n'importe lequel d'entre eux. Et cette assemblée d'hommes qui décide de la contraindre et qui décide de l'exécuter d'une manière terrifiante, c'est quand même le plus grand féminicide de la littérature française. Et nous ne l'avons pas vu. Et bien sûr, il y a derrière Dumas, qui pourtant est l'un des premiers à mettre en scène des personnages féminins flamboyants, qui a un amour des femmes dévorant. Alors, il est infidèle, voilà. Mais il reste loyal à toutes ses maîtresses, il les accompagne, il les aide financièrement. Donc c'est quelqu'un qui a une tendresse pour les femmes, et c'est quelqu'un qui avait une mère qui l'idolâtrait. Et ça, c'est une autre chose qui me frappe, c'est que il fait de Milady une mère dans son texte, et c'est complètement oublié, parce que il aurait eu plus de mal, je pense, à exécuter de cette façon une mère dont il aurait montré la tendresse envers son fils.
Ah oui, parce que Milady, dans le roman d'Alexandre Dumas, est vraiment très très sombre. Hein,
nous le savons bien. Oui, terrible.
Je vais vous faire écouter Adélaïde de Clermont-Tonnerre, l'écrivain, le gentil Baudot, hein, dans les années 1970. Lui aussi déjà évoquait Milady, parce que c'est ça qui est toujours passionnant à saisir, comment les réflexions, la recherche, ici en littérature, se diffusent auprès du plus grand nombre.
Le succès depuis plus d'un siècle des Trois Mousquetaires, suivi de 20 ans après, et du Vicomte de Bragelonne, ou 10 ans plus tard, fait de cette histoire l'un des monuments, à ne pas négliger, de la littérature bourgeoise. La question n'est pas de le démolir, mais d'en rendre la visite utile. On y verra, en effet, comment la bourgeoisie est incapable de se raconter elle-même, autrement que par des dérapages inconscients, absolument fantastiques et, au fond, criminels. Lorsque les hommes, effectivement, se mettent ensemble pour couper le cou à la femme qui les fait jouir. Ainsi, réhabiliter Milady contre Dumas père est une entreprise de salubrité publique. D'autant plus nécessaire, peut-être, que cela se passe pour l'essentiel dans les cerveaux d'enfants et ou les souvenirs d'enfance.
Jean Thibaudeau, en 1970, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, belle analyse.
Ah mais c'est extraordinaire, c'est la première fois que j'entends cet archive. Je trouve ça fabuleux parce que c'est exactement voilà tout le projet que j'ai voulu porter et je suis très heureuse. Ça me donne envie d'aller en écouter plus parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire une incapacité à laisser à la femme une quelconque place de sujet. Elle n'est qu'objet, elle n'est que outil de désir, outil d'intrigue, outil de dramatisation. À aucun moment on ne peut lui laisser une place, et il raconte la violence effectivement de ces hommes rassemblés, et il le raconte très très tôt, parce que si c'est dans les années 60, moi je n'ai jusqu'à présent jamais entendu quelqu'un qui a pu dire quelque chose de la sorte sur Milady.
Jean Thibaudeau venait d'écrire la même année, hein, mai 1968 en France, parce qu'on l'a entendu dans l'archive, il y ajoute une lecture politique, il y place la bourgeoisie, et cette bourgeoisie si critiquée, alors à travers le temps, on l'oublie souvent, toujours critiquée par ses positionnements sociaux.
Mais c'est très juste parce qu'il y a cette pression de la morale bourgeoise qui est au fond, à mon sens, au 19e, parce qu'il ne faut pas oublier que, donc, Milady, ça se passe au 17e, mais il y a évidemment toute une grille de lecture du 19e, au temps où écrit Dumas, qui s'impose, une morale bourgeoise qui, pour les femmes, est un repli, est un retrait. Au contraire, on rétrograde par rapport à une forme de liberté. Alors, je ne dis pas que c'était facile, mais il y avait une capacité de liberté, il y avait une capacité d'avoir ses propres biens, il y avait une capacité... On a eu quand même quelques reines, alors certes, elles étaient régentes, mais qui ont marqué le temps. Depuis ce temps-là, on n'a toujours pas eu, mine de rien, une présidente de la République ou quelqu'un. Donc, cette morale bourgeoise qui s'établit au 19e siècle, a emprisonné les femmes encore plus que les périodes précédentes.
Et puis nous le voyons très bien, et vous le dites avec justesse, la production des Trois Mousquetaires, c'est à l'image de la société du 19e siècle, sachant que nous sommes, nous, héritiers, héritières de cette société-là, beaucoup. Dans le choix du roman historique, là aussi, il y a des questions à poser. Quand vous évoquiez Alexandre Dumas, qui a été regardé avec un peu de distance parfois, parmi toutes les raisons, il y a le choix du roman historique, ce genre particulier. Vous vous êtes interrogé, vous, au moment d'écrire « Je voulais vivre » pour porter un message, hein, ce message que vous vouliez porter, il y a plusieurs manières de le faire. Là, c'est le roman historique. Pourquoi ?
Oui, alors moi, je lutte toujours un peu contre cette idée, cette typologie des genres. C'est-à-dire qu'il y a des genres qui sont considérés, des genres qui sont moins considérés. Le roman historique fait peur et pourtant, quel merveilleux terreau que d'apprendre, de redécouvrir son passé tout en le vivant de manière très incarnée. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des livres d'histoire passionnants, mais dans le roman, on se glisse dans des personnages, on se glisse dans une intimité, on a le dialogue qui vient évidemment relever tout ça d'une forme de panache. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour cette tradition-là et c'est vrai, mais je le reconnais, mon éditeur au départ a eu un petit moment d'inquiétude en disant « Oui, mais le roman historique, c'est compliqué. » Et souvent, les lecteurs aussi viennent me dire « Mais alors, est-ce que c'est un roman d'amour ou est-ce que c'est un roman d'aventure ?» Et moi, je cherche depuis le début à faire ce que fait d'ailleurs très bien Dumas et d'autres auteurs que j'aime passionnément, un roman où il y a toutes les émotions de la vie, où on n'est pas dans une classification de genre, et tout comme je trouve qu'il n'y a pas de littérature haute et de littérature basse, je trouve que l'exigence littéraire et le plaisir de lecture doivent primer avant tout.
Votre éditeur, c'est Grasset. Mmh. Et il y a là, le plaisir du lecteur et de la lectrice. Alors, en tant que lecteur, le plaisir, je le ressens, mais avec cet apport supplémentaire, d'où votre note à la fin du roman. La volonté de dire quelque chose. Les deux se mélangent ici.
Oui, moi j'ai fait... Alors, je ne suis pas historienne, mais j'ai vraiment travaillé sur comprendre l'époque. Je me suis posé des questions à chaque page. C'est-à-dire que j'avais déjà écrit des romans historiques, mais d'une histoire récente. Donc, même si ça demande beaucoup de recherche, c'était plus facile. Là, à chaque page, je me pose une question. Est-ce que quand je l'habille de velours, le velours est déjà popularisé? Est-ce que cette couleur existe? Est-ce qu'elle aurait eu les moyens de se l'acheter? Quand je fais un dîner, est-ce que les légumes que je vais mentionner sont déjà présent, est-ce que je me rappelle d'une scène, une scène d'amour, où je commence à dire, mais elle défait sa boutonnière, et puis je suis frappée d'une évidence, en fait, il n'y a pas encore de boutonnière, on a plutôt des lacets. Donc, ça a été un travail, en fait, dans le détail comme dans la grande chronologie. Je me suis fait évidemment des chronologies pour la cohérence du roman, mais aussi pour la cohérence historique, qui était très 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 important et passionnant, parce que j'ai découvert énormément, énormément de choses.
Ah ben, en histoire, nous adorons la chronologie, les dates, on le sait bien, c'est important, vive les dates. Et dans Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous jouez justement sur la chronologie, parce que il y a des dates, ce sont des narrations. Mais là où la pertinence est très efficace, c'est que la chronologie n'est pas en continu. Il y a des va-et-vient dans le temps où nous retrouvons les éléments de la vie de Milady, mais aussi la narration par D'Artagnan, que l'on associe au siège de Maastricht, là où il meurt. Donc il y a ces regards différents à des moments différents.
C'est-à-dire que j'ai voulu faire deux choses, à la fois jouer effectivement sur la chronologie, c'est-à-dire pouvoir aller vers l'avant et vers l'arrière pour construire un rythme qui soit dynamique, et en même temps à confronter les points de vue. Cette femme est une femme criminelle détestée, peut-être la plus détestée de la littérature française, et je vais croiser les points de vue. Évidemment, D'Artagnan porte une grande partie du point de vue, parce que comme j'ai une grande tendresse pour D'Artagnan, je l'ai imaginé vieillissant au siège de Maastricht, c'est quelques jours pour ceux qui connaissent bien le destin de D'Artagnan avant sa propre mort, et il va s'interroger sur le sort qu'il a fait subir à Milady, sur sa relation à lui, parce que c'est un livre, on me dit, féministe, et c'est vrai que c'est un livre féministe, mais c'est un livre qui aime les hommes aussi, et j'aime ce personnage de D'Artagnan qui est capable de doute. Quand on le trouve dans Dumas, il est très jeune, il est d'une certaine manière à l'âge des certitudes. Quand on est très jeune, on a tout vu, tout lu, tout bu, tout compris. Et puis la vie se charge de vous abîmer, de vous ouvrir le cœur. Et quand on le retrouve dans mon livre, il est beaucoup plus âgé. Il est à l'âge des doutes. Et ça, j'ai voulu le montrer parce que je trouve que c'est très beau dans cette nouvelle idée de la virilité qui petit à petit se construit, quelqu'un qui est capable de se poser des questions. Et il y a beaucoup de personnages comme ça. Et donc, j'ai croisé, et puis je m'intéresse aussi, je m'amuse à détourner un petit peu certains aspects de l'histoire de Dumas. Par exemple, Buckingham, chez Dumas, est un héros romantique, passionné, amoureux de la reine de France. Et je remets le curseur vers quelque chose de plus historique, qui est que Buckingham doit son ascension au roi Jacques Ier, dont il était l'amant. Et il y a des lettres extraordinaires, d'ailleurs, de Jacques Ier qui dit, il écrit à Buckingham en disant « Vous êtes tout autant mon fils que ma chère épouse ». Donc c'est d'une extraordinaire modernité. Quand on est aujourd'hui à cette idée, voilà, d'une fluidité des sexes, cette époque-là a beaucoup, beaucoup moins de questions que nous sur le sujet. Donc c'était toute cette matière que j'ai brassée avec beaucoup de curiosité et de plaisir.
Oui, qui nous conduit au XVIIe siècle, dans ce XVIIe siècle de cap et d'épée, et dans la volonté de raconter, à l'instar d'Alexandre de Dumas dans Les Trois Mousquetaires, la vie de Milady, ça on l'a, hein, les chevauchés, les...
Oui,
mais c'est ce qu'on aime aussi du roman historique, et le rebondissement, et puis comme je le disais, la compréhension d'une histoire, celle d'une femme que l'on connaît, Milady, mais qu'en réalité, on ne connaît pas. Vous avez dit, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que dans vos autres romans, vous avez étudier, travailler des périodes plus récentes. C'est après la Seconde Guerre mondiale et après, avec des va-et-vient.
Oui, alors par exemple, c'est vrai que dans le dernier des nôtres, je m'intéresse à la fois à une période assez méconnue de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout le périple de Werner von Braun, qui était l'inventeur des fusées, des missiles V2, qui ont permis de bombarder Londres. Il est pris finalement par Hitler comme un génie qui va permettre de changer le cours de la guerre. À la fin de la guerre, il est emmené par les Américains aux États-Unis et il va devenir quelques années plus tard le directeur du programme spatial de la NASA. C'est grâce à lui que les Américains vont sur la Lune. Donc cette histoire m'a passionnée. Je la croise avec le New York des années 70, Andy Warhol, La Factory, ce terreau musical extraordinaire. Donc tout ça m'a passionné, c'est de l'histoire, parce que évidemment, les choses ont changé. Je me souviens que le lecteur avait fait quelque chose d'extraordinaire. J'avais un historien qui avait relu ce dernier des nôtres, et il y a une course-poursuite dans les débuts à Manhattan, et il avait été tellement précis qu'il m'avait dit, écoute, ça va, mais fais attention, le sens de la 5e avenue a changé en, je crois que c'était mai 70, donc ton parcours ne fonctionne pas, il faut que tu le revoies.
Ah, c'est excellent, bah oui, parce que c'est ça aussi, c'est un jeu, hein, d'ailleurs, de chercher l'erreur historique ou l'anachronisme.
Exactement.
Bon, j'en ai pas trouvé.
Ouf.
Mais on se laisse plonger dans le roman. Et puis, comme vous le disiez, c'est aussi un roman. Et donc, il y a cette forme de liberté de la romancière. Dans votre carrière littéraire, je vais dire, parce que votre premier roman, c'est Fourrure, c'est en 2010. Oui. Là, vous explorez un tout autre monde. C'est celui qui nous conduit auprès de Madame Claude.
Oui, ça, j'ai vraiment... En fait, tout ce livre est parti d'une indignation, là aussi, comme quoi, finalement, c'est un bon élément. Je suis toute jeune journaliste dans un déjeuner littéraire. Et là, toutes les femmes écrivains que j'admire mais sont assassinées sur place par tous les gens qui sont là. Donc c'est « Oh, mais elle, si elle n'était pas la maîtresse d'un tel, on la publierait jamais. Mais celle-là, mais ses textes sont ni faits ni à faire, on est obligé de tout réécrire. » Et je sors de ce déjeuner en choc, parce que j'ai toujours cette aspiration secrète à écrire, et avec mille problèmes de légitimité que tant de jeunes femmes ont eu avant moi. Et j'écris toute la trame de cette histoire. Une femme de mauvaise vie, ancienne fille de Madame Claude, que l'on accuse de ne pas avoir écrit ses livres. Et je fais là aussi des portraits. Je m'inspire complètement de Romain Gary, que j'ai aussi tellement aimé, avec qui j'ai une relation de famille, en fait, parce que ma tante a été la toute première à découvrir que Émile Ajar était Romain Gary. Donc Romain Gary est le seul auteur qui a eu deux fois le prix Goncourt, l'un sous son vrai nom, l'autre sous son pseudo que personne n'arrivait à identifier. Et je rebalaye cette époque fascinante, parce que c'est une décennie assez magique, c'est une décennie de liberté extrêmement vitale. On s'éloigne le plus possible des horreurs de la guerre, le pire de l'humanité. On est donc projeté vers l'avenir. Et c'est une décennie qui n'est pas matérialiste. C'est une décennie où on a vraiment envie de changer le monde, où l'argent n'est pas la valeur première. Et moi qui, sans doute, ai un problème avec la société de consommation, c'est une décennie qui me plaît.
Je me permets, pourquoi votre tante a découvert que Romain Gary et Émile Ajar étaient la même personne ?
Eh bien, elle était toute jeune journaliste, elle aussi, très timide. Elle avait une passion pour Romain Gary et une passion pour Émile Ajar. Et elle a fait finalement une étude de lecture et elle a eu la chance d'interviewer à l'époque. Elle travaille pour Paris Match. Elle va interviewer Romain Gary chez lui, et il est... Alors, très Romain Gary, il dit « Oui, mademoiselle, non mais évidemment, on sous-estime l'influence que j'ai sur les jeunes auteurs, ce Émile Ajar m'a tout pris, mais bon, rien à voir. » Mais dans sa lettre d'adieu, c'est bouleversant, dans sa lettre jusqu'il laisse pour son suicide, il rend hommage à cette femme, Laure Boulet de la Meurthe, qui s'appelait Laure Boulet, et il dit « Voilà, elle a été la première à découvrir, en faisant notamment... Elle avait remarqué que dans les deux textes, il y avait une phrase qui s'appelait « Je m'attache facilement ». Et donc il dit, et je dois dire que pendant tout cet entretien, j'ai été très amoureux d'elle, « Je m'attache facilement ».
Romain Gary.
Votre mère a quand même conditionné toute votre vie. Elle vous empêchait de voir des femmes.
Voyez-vous, voir des femmes, nous n'appartenons pas à la même génération. Lorsque j'étais jeune, l'expression « voir des femmes », ça voulait dire « aller au claque ». Ma mère était contre, pas pour le plan, sur le plan moral, mais parce qu'à l'époque, la pénicilline n'existait pas. Et elle m'avait traîné dans un endroit qui s'appelait le panopticum, où on voyait les horreurs que vous causez les maladies vénériennes. Mais ma mère, au contraire, tenait à faire à moi ce qu'on appelle un homme à femme. Elle n'a pas réussi, parce que j'aime beaucoup trop les femmes pour être devenu un homme à femme, au pluriel.
Oui, mais vous dites souvent... L'humanité est frigide. Est-ce qu'il y a une relation entre...
Je fais un peu dans la danse de Genghis Khan, je représentais l'humanité comme une nymphomane frigide qui n'arrive jamais à ses fins, c'est-à-dire qui n'arrive jamais à se satisfaire et qui tue tous les amants qui essayent de l'assouvir. L'humanité est à la recherche du bonheur. Elle est à la recherche d'un absolu. Les hommes se sacrifient à ses pieds pour le lui procurer. Ils n'y arrivent pas. Et c'est ce parallèle de la frigidité féminine et de l'impuissance de l'homme, si vous voulez, à satisfaire ce monstre sacré qu'est l'humanité, qui m'a fourni le thème de mon livre.
Romain Gary, dans l'émission L'invité du dimanche, nous étions encore en 1970, comme quoi, années 70. Ici, l'évocation de Romain Gary, en écho à ce que vous disiez à votre roman Fourrure, fait réfléchir aussi, toujours, à la question des femmes dans la société. Fourrure, je la rappelle, oui. C'est l'histoire de la fille de Madame Claude, et Madame Claude, c'est quand même la grande figure...
La plus grande proxénète de l'époque. Ça a été fascinant, mais ça a été pris de façon très romanesque. C'est-à-dire qu'on trouvait que Madame Claus était formidable, elle avait que des jeunes femmes divines qui vivaient dans des jets, etc. Et moi, je montre l'envers de la médaille quand même, que ce sentiment de facilité. Moi, c'est une jeune femme modeste qui pense qu'en devenant fille de Madame Claude, finalement, elle va avoir une forme d'ascension sociale plus rapide. Je montre les cicatrices que ça laisse, les douleurs que ça laisse. Et c'est vrai, au fond, qu'il y a une cohérence, parce que depuis mon premier livre jusqu'à maintenant, cette question de la femme sainte et de la femme maudite m'obsède. C'est vrai.
Ben, la question, et c'est en écho à ce que vient de dire Romain Gary, de la figure de la mère et de la femme avec qui l'on couche. C'est la figure de Milady face à Constance. C'est toujours ces figures-là qui s'opposent.
Oui, et je suis étonnée qu'on arrive... Alors, ça, on fait des gros progrès, évidemment, et c'est formidable, mais qu'on ait autant de mal encore à dépasser cette idée-là. Et c'est de toute éternité, parce que Ève est responsable du fait que nous ayons été chassés du paradis. Pandore est celle qui ouvre la boîte, qui répand les mots sur l'humanité. C'est Hélène de Troie qui est responsable de la guerre. C'est Hélène qui est responsable de la guerre de Troie. Pourquoi tant de haine?
Pourquoi tant de haine? Et pourquoi tant de difficultés à s'imposer dans la société? Enfin, le pourquoi, on l'imagine bien, mais c'est ce long processus de domination masculine et cette question de légitimité. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous avez utilisé le mot tout à l'heure. Vous vous êtes sentie déjà illégitime, ou plutôt, on vous a fait sentir, on a voulu vous faire sentir illégitime?
Alors, j'ai grandi dans une famille formidable, aimante, il y a plein de choses très bien, mais où régnait quand même encore cette idée que les femmes ne sont pas faites pour être artistes, que les femmes ne sont pas faites pour être écrivains. Il y avait une immense bibliothèque où j'ai lu le pire et le meilleur, c'était tout en vrac, mais il y avait très peu d'auteurs féminins. Au collège, je le découvre bien plus tard, George Sand n'était pas là. Donc, c'était quand même très prégnant. D'ailleurs, c'est drôle parce que la plupart des femmes de la famille sont maintenant artistes, réalisatrices, écrivains, comme quoi finalement, ça peut se révéler un moteur. Et oui, et encore des années plus tard, je lutte contre ce sentiment, effectivement, d'illégitimité, un sens de l'interdit. Alors, encore une fois, ça peut être une énergie quand on sait le transformer, mais quand je vois encore beaucoup de jeunes femmes, je prends toujours le temps de parler avec celles qui ont une aspiration à écrire ou simplement qui se lancent dans la vie professionnelle. Pour les aider à oser, je vois beaucoup qui craignent un peu de prendre la parole, qui n'osent pas s'imposer. Elles sont toujours les dernières à demander une augmentation. Et encore une fois, je le fais sans opposer les hommes et les femmes. Dans ce livre, j'espère que ça se sent aussi. Il y a un très grand amour des hommes. Moi, j'aime les hommes vraiment. Je suis en plus mère de deux garçons. Milady aime les hommes, clairement, elle a cette sensualité-là, et il y a quelques très doux portraits d'hommes. En tout cas, moi, dans ce livre, j'ai mis des hommes que j'aimerais rencontrer. Le personnage de Rochefort arrive véritablement à la comprendre, et pourtant, c'est un homme très fort, grand combattant, solide. Il y a un personnage de prêtre très néfaste et un personnage de prêtre très bienveillant. Donc, j'ai voulu montrer, encore une fois, en fait, la littérature nous permet... La nuance, cette nuance qui se perd tellement, cet art de la conversation avec les textes passés et cet art d'éclairer au fond peut-être un peu différemment tout ce patrimoine qu'on a la chance d'avoir.
Et puis, en tant que lecteur masculin, j'ai le sentiment que les personnages masculins que vous évoquez sont aussi victimes de cette domination masculine. Je vais le dire d'une autre manière, si on prend le cas d'Athos, Athos est très dur et même monstrueux envers Milady, mais pour répondre aux injonctions de la société.
C'est exactement ça. Et Athos, je voulais vraiment lui donner cette épaisseur de son passé que Dumas ne fait qu'esquisser là aussi, pour montrer pourquoi on en arrive là. Pourquoi cet homme qui a tous les signes de la noblesse, de cœur, qui a quand même un grand courage, va traiter cette femme, sa femme, d'une manière aussi brutale. C'est-à-dire qu'un jour, elle tombe de cheval, elle a été marquée au fer rouge, elle a toujours dissimulé cette marque. En voulant la soulager parce qu'elle ne peut pas respirer, il ouvre ses vêtements et découvre la marque. Et là, sans un instant d'hésitation, Il est tellement blessé de cette marque, qui veut dire qu'elle a été potentiellement voleuse, prostituée, criminelle. Il ne sait pas de quoi il retourne. Il ne la laisse pas s'expliquer. Il la met à nu et il la pend. C'est une scène d'une violence terrible. Dans Dumas, elle est racontée par lui à D'Artagnan un soir de beuverie, donc peut-être qu'elle nous marque moins. J'ai voulu la donner à voir pour qu'on se rende compte de ce qui se passait.
Oui, on le voit bien. Et d'ailleurs, Dumas n'a sans doute pas pensé en écrivant son roman que la marque était au-delà du symbole qu'il voulait lui donner, hein, cette fleur de lys sur l'épaule, la marque pour les criminels. Chez Milady, ça prend un symbole autre, c'est la condamnation féminine, et on ne peut pas s'en sortir, cette marque ne peut pas s'effacer.
À partir du moment où elle est marquée, d'une certaine manière, elle est fichue. Et c'est ça qui est terrible. Et en même temps, ce qui est intéressant avec cette idée de marque qu'imagine Dumas, c'est qu'on peut aussi la rapprocher de cette grande tradition de la sorcière. La sorcière, on cherche sur le corps de la femme que l'on croit sorcière la marque du malin. Donc on va là aussi la mettre à nu. On va aller regarder dans les moindres recoins de son corps une tache, une cicatrice, quelque chose d'inattendu qui montre qu'elle a eu un commerce physique ou qu'elle a été marquée par le malin. Donc j'ai aussi puisé dans cette historiographie qui change considérablement, parce que on est au fond au temps de Milady, au temps des sorcières. On croit toujours que c'est médiéval la chasse aux sorcières, mais le pic de la chasse aux sorcières, c'est le XVIIe siècle. Elle meurt juste avant le déploiement de cette chasse aux sorcières. Et je lui donne du coup des choses qui sont en germe, puisqu'elle est empoisonneuse dans l'histoire de Dumas. Je lui donne aussi ce goût des plantes qui a la capacité de guérir. Et il faut se rappeler que les sorcières, pendant des siècles, ont été les seules guérisseuses, finalement, auxquelles avaient accès les gens les plus humbles. Et en même temps, cette capacité de tuer par les plantes.
Dis donc, vous aimez l'histoire, vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, hein ?
J'aime passionnément l'histoire sans être historienne. Et avec, en même temps, je suis assez impressionnée par l'histoire. Vous avez parlé des dates tout à l'heure. J'ai toujours peur d'oublier les dates. J'ai toujours peur de mélanger. C'est pour ça que je fais toujours ces chronologies. J'aime l'objet de la chronologie, d'ailleurs, qu'on peut déplier et qu'on peut regarder. Mais je pense qu'elle nous... on sait que c'est une illusion, qu'on ne tire pas de leçons de l'histoire, malheureusement, et que les crimes se répètent et les erreurs humaines se répètent. Mais je pense qu'elle l'aide quand même à éviter quelques déboires.
Quelle place pour l'histoire, d'ailleurs, dans votre parcours, ne serait-ce que par les études ?
Alors moi, quand j'ai préparé Normal Sup, j'étais en histoire géo, et donc j'ai intégré Normal Sup en histoire géo, mais justement, je pense que j'ai fait un trop plein de dates à ce moment-là, et depuis, je n'arrive plus à les retenir. C'est pour ça que je les écris.
Oui, voilà, c'est joliment dit. Quand même, par l'histoire géo, vous êtes passé, oui ?
Oui, moi, ça me passionnait. Alors avec, en même temps, j'ai appris tellement, j'ai eu des professeurs extraordinaires. Moi, je crois que les profs... Enfin, moi, il y a vraiment des professeurs qui ont changé ma vie. J'ai une immense reconnaissance pour eux. Parce que, justement, on ne poussait pas forcément dans ma famille les filles tellement vers l'étude, et que c'est eux qui m'ont orientée vers des études passionnantes. Mais c'est vrai que j'ai un peu souffert par moment d'une histoire qui était une histoire des grands mouvements politiques, une histoire plus abstraite, et qu'on a longtemps méprisé une histoire des personnages. Or, moi, sans doute parce que j'avais en germe la romancière que j'allais devenir, j'aime suivre des personnes, j'aime suivre des grandes femmes et des grands hommes, et je sais que cette idée a été un peu démontée par tous des historiens qui ont raison sur certains points, mais je pense qu'il ne faut pas le mépriser, parce qu'elle permet à des gens qui ne sont pas historiens d'adhérer à l'histoire. Et c'est ce que fait Dumas. Il donne de la chair à l'histoire, il donne une voix à l'histoire, et ça donne envie d'aller plus loin.
Oui, incarner l'histoire.
Exactement.
Toute histoire incarnée, on le sait toujours. Et même quand nous parlons d'histoire économique, d'histoire des idées, il y a toujours des gens derrière. Mais donner le goût de l'histoire,
oui,
voilà, passe souvent par des figures. Et dès lors, il faut se plonger un peu, alors, dans la chronologie, on le dit sans cesse, ou alors dans la généalogie.
Quelle a été, à votre avis, la contribution essentielle de votre famille à l'histoire de France ?
La guerre, l'épiscopat et l'architecture. La guerre dans toute, partout, puisque le maréchal Clermont-Tonnerre a gagné 3 grandes batailles, l'Offel, les Fontenoy. Ensuite, ils ont tous se sont battus, et souvent, le nombreux sont morts sur les champs de bataille, donc la guerre. La deuxième chose, c'est l'architecture. Ils ont bâti 3 ou 4 châteaux, dont le dernier est vraiment une splendeur.
Et puis l'épiscopat, il y a le
L'épiscopat, vous avez le fameux évêque de Noyon, qui était un très grand évêque, qui a admirablement géré son diocèse et qui a été ridiculisé de la façon la plus amusante par Saint-Simon dans ses mémoires à cause de sa vanité incommensurable. Et puis vous avez le fameux cardinal, qui lui aussi était un très grand cardinal. Il a tenu tête à Louis XVIII, qui avait des exigences qu'il n'était pas possible d'écouter. Oui. Et alors il est allé à Rome au moment d'un conclave, et il a fait le désespoir de Chateaubriand, qui était alors l'ambassadeur de France à Rome, à cause de ses exigences et de son faste d'ancien régime qu'il avait amené à Rome.
Élisabeth de Clermont-Tonnerre, Élisabeth de Gramont, femme de lettres également. Ben oui, elle s'était mariée en 1896 avec le marquis, ben, puis duc de Clermont-Tonnerre.
Je ne l'avais jamais entendue, là aussi, c'est assez fascinant. Et du coup, elle m'apprend des choses, parce que c'est vrai que je commence uniquement maintenant, très tardivement, à redécouvrir l'histoire de ma famille, les deux branches d'ailleurs, parce que donc il y a la partie Clermont-Tonnerre et par ma grand-mère qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques mois seulement, l'histoire des Orléans. Et pendant très longtemps, sans doute parce que j'étais une fille, donc amenée finalement à ne pas porter de nom, il y a encore tout ça qui est en germe, j'ai considéré que c'était presque pas mon histoire et qu'il fallait que j'invente un autre chemin. Et maintenant, je le redécouvre parce que je m'aperçois d'abord qu'il y a eu des gens quand même passionnants. On dit noblesse oblige, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est censé essayer de faire son mieux pour ne pas déshonorer ceux qui nous ont précédés. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a complètement fait changer d'avis. Grâce aux éditions Fayard, j'ai été invitée à participer à un ouvrage collectif qui était « Les écrivains sous les drapeaux ». Et pour ça, on est tous partis. Il y avait plein d'écrivains, Antoine Compagnon, Gisbert, voilà. Enfin, on était très nombreux à aller en immersion dans un régiment. Moi, je ne connaissais rien de l'armée. Et à cette occasion, moi, j'ai été au RICM, qui est le régiment le plus décoré de France. Et je comprenais rien, je connais rien au grade, je me mélange les galons. Enfin bref, ils ont tous des sortes d'embrasses de rideaux. Vraiment, j'étais néophyte. Et grâce à eux, le grand moment de leur histoire, c'est la reprise du fort de Douaumont pendant la Première Guerre mondiale, qui est un acte absolument héroïque. Et je découvre absolument fortuitement que mon arrière-grand-père, Louis de Clermont-Tonnerre, qui meurt d'ailleurs un an plus tard, est à leur côté. Il dirige un régiment des Zouaves et il reprend avec eux le fort de Douaumont. Et j'ai été tellement honteuse, au fond, de me dire que cet homme qui est mort pour la France, quand même, je ne savais rien de lui, qui laissait d'ailleurs mon grand-père âgé, orphelin d'à peine 5 ans, que j'ai décidé de me replonger un peu là-dessus, mais je commence, simplement.
Oui, mais toujours étonnant, hein, avec un nom comme Clermont-Tonnerre et une famille que l'on identifie dans notre histoire, de se dire que vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous n'avez pas eu cette transmission comme une évidence, c'est-à-dire la capacité de réciter toute sa généalogie. C'était pas comme ça que ça se passait.
Pas du tout. Je suis très ignorante de ma propre histoire. Souvent, des gens m'en disent plus que moi-même. Je connais la devise de la famille parce qu'elle me plaît.
C'est laquelle ?
Qui est, si on la met en version raccourcie, c'est « si omnes ego non ». Quand même tous, moi non, la véritable devise, c'est quand même tous te renieraient, moi je ne te renierais pas, tiré de Saint-Pierre. Et je suis quelqu'un de très loyal, j'aime la loyauté. Et justement, ne pas renier ses proches est quelque chose qui me parle. J'ai des bribes, je sais que Stanislas de Clermont-Tonnerre a voté l'abolition des privilèges. Je sais, et Dieu sait que c'est un débat important en ce moment, qu'il a été le premier à pousser pour accorder aux Juifs de France une citoyenneté pleine et entière. Il disait tout leur refuser en tant que nation, tout leur accorder en tant que citoyen. Donc ce sont des choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je suis une fille dans un système où la transmission se fait par les hommes. À moi d'écrire une autre page plutôt que cette histoire.
Oui, la transmission se fait par les hommes, transmission de la connaissance, du nom. Enfin, vous l'avez évoqué, le nom de naissance est effacé, invisibilisé au moment du mariage.
Oui.
Donc, en parlant de Clermont-Tonnerre, nous ne parlons que du côté paternel.
Totalement. Et d'ailleurs, le fait que je porte mon nom a fait un peu, un peu grincer quelques personnes de la famille parce que mon mari est très ouvert là-dessus. On a donné les deux noms à nos enfants. Mais on trouve que c'est bizarre que je ne prenne pas le nom de mon mari.
Et du côté maternel, donc, Goulet de la Meurthe, c'est ça?
Oui,
vous
absolument.
Avez ici des figures féminines et vous venez d'en évoquer une en parlant de votre grand-mère.
Oui, alors il y a des figures féminines. Alors elle était Orléans, mon grand-père était Boulet de la Meurthe. Là aussi, je suis en train de redécouvrir, parce qu'elle nous a laissé une maison qui est remplie à craquer d'archives qui, au gré des fuites du toit, ont été un peu dispersées. Donc on est en train de remettre de l'ordre. Et dans ces archives, il y a toute l'histoire Boulet de la Meurthe qui est très intéressante, parce que c'est le seul vice-président de l'histoire, l'un des rédacteurs du Code civil. Et j'ai découvert très récemment, par exemple, qu'il avait été très favorable à l'éducation des filles. Et ça, je l'ignorais totalement. Donc c'est toujours intéressant de voir, au fond, cette transmission inconsciente qui se fait de génération en génération, et où je m'aperçois que ce que je crois être un parcours individuel est en fait quand même très déterminé par ce passé que j'ignore pourtant.
Avec le mot « archive » qui a été prononcé, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, j'espère que vous êtes consciente que vous allez recevoir des messages d'historiens, d'historiennes, toujours à la recherche d'archives, en se disant « tiens, là, il y a peut-être quelque chose ».
Mais ce serait un rêve pour moi, j'aimerais beaucoup, parce qu'il y avait aussi un Boulet de la Meurthe qui était historien et qui a rassemblé énormément de documents, sur notamment d'ailleurs l'histoire de la Touraine, sur énormément de grands passages de l'histoire. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir remettre de l'ordre et que des historiens se penchent sur cette question. Ce serait passionnant.
Bien sûr, avec toute cette interrogation autour de l'histoire familiale, parce que, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, l'étiquette accolée à un ouvrage, roman historique, etc., peut être floue. Or, aujourd'hui, c'est le roman familial. Hein. On en voit beaucoup.
Oui.
C'est beaucoup de romans familiaux qui peuvent être des romans historiques aussi, ou simplement de la littérature. Vous appuyez sur cette histoire familiale?
Alors, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces grands textes d'autofiction, cette quête de la généalogie familiale. Vous avez reçu, par exemple, Anne Berès. Je trouve que sa démarche est passionnante, que c'est très, très beau, d'ailleurs.
Son livre Finistère,
oui,
est Finistère, exceptionnel.
Oui, exceptionnel. Ce qu'elle avait fait dans La Carte postale, qui, là, allait plus du côté de sa mère, était passionnant aussi. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une forme d'interdit. Pour explorer, en tout cas, peut-être que j'y viendrai littérairement, cette partie-là. Moi, j'aime profondément le roman d'imagination. On a entendu Romain Gary tout à l'heure, il a écrit dans Pour Sganarelle, qui était son texte critique, une phrase qui m'a marquée. Il dit « Depuis quelques années, la botte du réel a écrasé les écrivains ». Et je dois dire que je m'inscris un peu dans cette idée-là, l'imagination, l'évasion, d'être capable au fond de s'abstraire de sa propre vie pour aller vers autre chose. J'aime aussi beaucoup le mot d'Emmanuel Carrère quand il dit « vivre d'autres vies que la mienne », c'est ce qu'on fait en lisant et c'est ce qu'on fait en écrivant.
Et puis parmi les noms que vous avez cités depuis le début de l'émission, il y a celui d'une autrice, Colette.
Dites-moi, comment travaillez-vous?
Comment je travaille?
Mais mon Dieu, comme je peux! Dans tous les cas, je suis aidée. Je me fais aider par du papier d'un bleu tendre, par une bonne écurie de stylographes et aussi par une grosse paire de lunettes. Ma foi, je travaille exactement comme je peux et avec beaucoup de peine, je ne le dissimule pas.
Et qu'est-ce que vous avez en chantier, Madame Colette?
Mais je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. On m'a toujours reproché de manquer de sujet. Ça n'est pas à mon âge que je vais trouver, au gré de mon désir, des sujets romanesques. Alors j'attends.
Voilà, elle attend. C'est toujours très touchant d'entendre cela. C'est Colette qui s'exprimait en 1936 avec ce beaucoup de travail. Qu'elle dit comme ça très rapidement et c'est extrêmement pudique. Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est beaucoup de travail d'écrire un roman historique, mais il ne faut pas que ça se voie.
Oui, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de joie. Et ça me touche de l'entendre parler. En plus, j'aime bien sa voix qui roule un peu comme ça, les R. Ce livre, moi, je l'ai écrit pendant des mois en me réveillant à 3h30 du matin. Je me réveille d'un sursaut et immédiatement les personnages arrivent. Mais c'est un très, très long travail, effectivement, de recherche et de polissage. Et les gens me disent « Ah, c'est fluide, ça se lit facilement ». Je suis heureuse quand il me dit ça parce que j'ai tout fait justement pour arriver à cet entrain, à ce rythme, à cette fluidité. Et c'est pas quelque chose qui est facile effectivement à obtenir. Et moi, je suis pas du tout dans cette mythologie de l'écrivain se lance dans un texte et c'est immédiatement parfait. J'aime bien ce que disait Flaubert, on écrit comme on va à la mine. Il y a quelque chose d'artisanal, de laborieux et en même temps quelque chose d'extraordinairement joyeux. C'est-à-dire que moi, j'ai un immense plaisir d'enfant en écrivant. Comme quand enfant, on peint, on dessine, on fait de la pâte à modeler, il y a quelque chose de physique et de manuel dans l'écriture que j'aime profondément. Et puis, il y a des moments magiques, quand tout à coup, effectivement, le texte arrive avec une fluidité extraordinaire. On ne sait pas d'où il vient, d'une certaine manière. Moi, dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être un vecteur. Et après, en le relisant, je me dis « Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'avais tel âge, ça, c'est ce que j'ai vu hier dans la rue. » Mais pourquoi ça s'agrège comme ça? Pourquoi ça prend corps comme ça? Je ne saurais pas le dire et c'est merveilleux.
Ah oui, parce que ça développe tout un imaginaire, celui des Trois Mousquetaires notamment. Oui. En tout cas, ces romans-là, les romans de cap et d'épée, ce qui nous plaît beaucoup. Vous êtes directrice de rédaction du magazine Point de Vue. Alors, Point de Vue, Image du Monde, etc.
Tout à fait.
Nous l'avons tous lu, nous l'avons tous croisé. Ne serait-ce que chez le coiffeur ou chez le médecin, posé comme ça.
Mais on a fêté nos 80 ans cette année, donc maintenant ça fait d'une certaine manière 3 générations que ce titre existe. Et en plus, il a une très belle histoire, parce qu'il a été créé en 45 à Londres par des résistants. C'est pas du tout ce qu'on imagine souvent, point de vue. C'est-à-dire que c'est Marcel Blonstein Blanchet qui est l'un des fondateurs, le général Cornillon Molinier qui en est, c'est Lazare Ashlin qui ensuite créera l'ancêtre de la LICRA. Donc on croit quelquefois que ce sont, 3 aristocrates qui buvaient le thé en caressant des caniches et en mangeant des macarons qui ont créé par point de vue, mais pas du tout. C'était des hommes d'action, des résistants, des hommes de presse qui ont voulu faire un life à la française. Et on a les plus grands photographes qui ont travaillé dans Point de Vue. On a les plus belles plumes. C'est Raymond Aron, par exemple, qui écrit les 100 premiers éditos de Point de Vue. Et moi, j'ai un grand attachement pour ce titre qui nous permet, encore une fois, de revisiter à la fois notre patrimoine et en même temps d'être très ouvert sur le monde. Vous avez cité Image du Monde, qui était le deuxième titre qui s'est accolé à Point de Vue. Et quand je vois l'attachement des lecteurs, bien ça fait 3 générations et c'est vraiment une partie de notre patrimoine aussi. Et je l'espère que ça va durer pour 80 prochaines années.
Bah oui, avec grand plaisir, parce que c'est toujours un régal de regarder Point de Vue avec ce que j'évoquais, cette fascination. Vous regardez comment d'ailleurs cette fascination en France sur l'aristocratie, oui, les familles royales, etc.
Alors, c'est vrai qu'on a un rapport à la monarchie en France qui me fascine. D'une certaine manière, on n'a pas fait notre psychanalyse collective. C'est-à-dire qu'on reste absolument attiré. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés, notamment par la monarchie anglaise, par toutes ces monarchies qui nous entourent, tout en ayant ce rapport très complexe français à 1789, à cette idée d'égalité, d'universalisme qui complique la donne. Mais je pense que on est sur une voie de réconciliation quand même. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Vous en êtes l'un des porteurs, l'un des vous portez cette flamme d'un goût de l'histoire, d'un goût de revisiter ces siècles absolument passionnants qui nous ont précédés. Il faut qu'on se réconcilie avec notre histoire. Évidemment, on a complètement changé. Point de Vue, par exemple, n'est pas du tout un magazine monarchiste. On n'est pas politique. Mais il y a une part d'histoire et une part de ces familles qui font rêver, tout comme on a aussi les grands artistes, les grands écrivains, les 4 pages d'histoire toutes les semaines, l'art contemporain. Enfin, voilà, on essaye d'aller chercher ce qui peut être inspirant dans une époque troublée.
Oui, et puis dans ce rapport à l'aristocratie et à la monarchie, qui n'est pas partagé par tout le monde, on le sait bien.
Bien sûr, je le comprends très bien.
Voilà, on le comprend très bien. Il y a quand même des constantes. Et en vous lisant Adélaïde de Clermont-Tonnerre, dont Je voulais vivre, la place des femmes dans cette histoire-là, ah là là, qu'on vienne d'un milieu populaire ou qu'on vienne de l'aristocratie, c'est sûr que le cadre n'est pas le même, mais la domination, elle est toujours présente.
C'est ce qui me fascine, c'est que là, quelle que soit la famille dans laquelle ces femmes sont nées, et c'est pour ça que j'ai dédié ce livre à toutes les femmes qui nous ont précédées, à tous les hommes qui les ont défendues et aimées. J'ai une immense tendresse pour les femmes qui nous ont précédées, parce que c'est évidemment encore plus dur quand c'est dans des conditions financières apocalyptiques, quand on ne peut pas avoir de quoi nourrir ses enfants, quand... Voilà, évidemment. Mais il n'empêche qu'elles ont toutes incroyablement souffert, qu'elles ont toutes été incroyablement courageuses et qu'elles ont ouvert la voie. Et quelle chance nous avons de vivre en France au XXIe siècle. Et n'oublions pas tout ce qui se passe à côté. Quand je vois ce qui se passe en Afghanistan, moi j'ai le cœur brisé. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en Iran, j'ai le cœur brisé. Il ne faut pas croire que c'est terminé.
Et puis,
il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Et puis la solidarité, la sororité apparaît très nettement aussi, parce que cette histoire de domination, c'est aussi une histoire de lutte.
Oui.
Souvent cachée, mais de lutte présente.
Absolument, absolument. Et puis, je trouve ça tellement important que les femmes aussi se soutiennent et s'entraident. Et il y a dans ce livre des femmes qui tendent la main aux autres femmes et des femmes qui, au contraire, sont l'ennemi de leur genre et de leur sexe.
Et puis, je le dis de nouveau, mais pour terminer, le plaisir aussi de lecture.
Hein.
Ce double plaisir de l'aventure et de la compréhension, d'une analyse quand même et d'un message à porter. Je voulais vivre. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'être venue dans le cours de
l'histoire. Merci à vous Xavier Maudouy, merci beaucoup.
C'est le prix du roman historique des Rendez-vous de l'Histoire de Blois.
D'Artagnan ! D'Artagnan, souviens-toi ! Souviens-toi, je t'ai aimé D'Artagnan !
Si vous faites un pas de plus vers elle D'Artagnan, nous croisons le fer ensemble !
Ah oui, parce qu'on ne va pas le laisser faire. Et voici le fil histoire maintenant, une chronique que vous pouvez retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant ensuite au podcast Le Fil Culture G qui propose chaque jour des décryptages dans toutes les disciplines, économie, sciences, philosophie, et à retrouver aussi en vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture, Le Fil de l'Histoire. C'est avec Emanuele Arioli, l'historien spécialiste de la littérature médiévale, l'auteur de Séguran ou Le Chevalier au Dragon. Et aujourd'hui, avec Emanuele, retour sur la notion de consentement. Vous allez voir avec des bouts de latin dedans, ce qui fait toujours plaisir.
À l'ère post-MeToo, le consentement est au cœur du débat public et des questions pénales. Mais ce débat est-il nouveau? Pas vraiment. Il a plus de 8 siècles. Au XIIe siècle, le mariage devient un sacrement. Avant, c'est essentiellement une affaire de famille, de patrimoine. Mais l'Église l'encadre, le codifie. Elle pose une exigence nouvelle, le consentement libre et mutuel des époux. C'est un moine juriste, Gratien, qui l'écrit noir sur blanc à Bologne, vers 1140. C'est le consentement qui fait le mariage, dans son Decretum, le décret, un texte monumental qui devient la base du droit canonique médiéval. C'est le oui qui compte, ou plutôt les deux oui. Pas la cérémonie, pas même l'acte sexuel, non concubitus sed consensus. Ce n'est pas l'union charnelle, mais le consentement qui fonde le mariage. Ainsi tranche l'Église. Et sans consentement, un mariage arrangé peut être refusé, voire annulé. C'est une révolution juridique. Le oui de la femme compte autant que celui de l'homme. Et un couple qui se dit oui est marié, même sans prêtre, sans témoin, même dans un jardin ou dans une chambre à coucher. Mais à 1215, le Concile de Latran IV vient encadrer ce principe. Désormais, il faudra l'annonce publique, les témoins pour entendre les oui, un prêtre, fini ou presque, les mariages clandestins. Le mariage moderne est né, avec les invités, les repas sans fin, et la belle-mère, bien sûr. Et en dehors du mariage, l'idée de consentement surgit dans ce contexte juridique, s'étend et ressurgit ailleurs. Par exemple, dans une étonnante encyclopédie de la légende du roi Arthur, du XVe siècle. Le manuscrit conserve les biographies et les portraits des chevaliers de la Table Ronde, mais aussi leurs serments, les 20 règles qu'ils doivent jurer de respecter. Voici la 20e. Ils ne devaient jamais prendre pour eux ni toucher aucune dame ou demoiselle, même s'ils l'avaient conquise par la force des armes, si elle n'en avait pas le désir et n'était pas consentante. Il ne faut jamais les toucher, à moins qu'elles n'en expriment le désir. Le mot « consentante » figure tel quel en ancien français. C'est étonnamment moderne. Ce texte médiéval est l'ancêtre de nos débats actuels sur le consentement sexuel. Bien sûr, les chevaliers de la table ronde incarnent un idéal, pas la réalité. Et le Moyen-Âge est une époque d'inégalité et de violence. Mais il mérite mieux que le vieux slogan « on n'est plus au Moyen-Âge » qu'on lit encore dans les manifs. Car le consentement a été inscrit dans les textes juridiques, 8 siècles avant qu'il ne le soit dans le code civil. Et car les chevaliers du roi Arthur, eux, juraient de le respecter. Et 800 ans après, on en est encore là? Alors sortez vos pancartes et vos hashtags. Vive la table ronde, hashtag consentement depuis 1540.
Et vive Emmanuelle Arioli, le fil d'histoire à retrouver sur les réseaux sociaux France Culture. Évidemment, c'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.